Cantona. Il est un ange, il est un mélange insolitaire. Il a la tendresse de Mireille Mathieu. Il est un peu comme Jerez, il a la poitrine de Gérard Depardieu. J'ai des oulalalalalalala. Merci France pour Eric Cantona. Il a la gravité de Monsieur Mitterrand. Il a la sûreté et grandeur du Mont Blanc. Il a la charme de Maurice Chevalier, la poésie du Baudelaire. Il est un vrai français, mais il joue en Angleterre. J'ai dit oulalalalalalala. Merci France pour Eric Cantona. Schmeichel, Kanchelskis, Hughes, out to Gibbs, back to Hughes, to Cantona, the Frenchman's away, goes past one man, past two, delightful little flick, takes it on the outside of his boot, oh I say it's a goal! Je dis ooh la 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 la! Merci France pour Eric Cantona! Oui c'est vrai pour un temps, Monaco ils avaient Glenn Hoddle. Ouais, je sais, pour quelques saisons, Marseille, ils avaient Chris Waddle. Mais en Angleterre, on n'a qu'un Français. Mais celui-là, ouais, c'est un vrai. J'ai dit oulalalalalalala. Ah, quel sacré gars. Cantona, dans son équipe, tous les Anglais, il dit oula, c'est la bonne trip. Eric Cantona, il est toujours à son poste. Quand il est sur le terrain, il va plus vite qu'Alain Prost. J'ai dit oula la 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 la. Merci France pour Eric Cantona.
Ce but de Lampard qui a marqué après 38 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Et en tous les cas, on s'aperçoit que les Anglais eh bien, dominent très largement les Français. Et des Français qui ont vraiment d'énormes difficultés à s'imposer. En tous les cas, actuellement, eh bien, cette équipe anglaise qui mène toujours 1-0.
Bonjour à tous et bienvenue sur l'émission Théâtre de la Gamelle, une émission de théâtre radiophonique tous les vendredis de 13h à 14h sur Radio Canu. Avec nous aujourd'hui dans le studio, Anne de Boissy, bonjour. Guy Néjon.
Bonjour.
Et Stéphane Néjon.
Bonjour.
Et à la technique, Anaïs. Bonjour Anaïs.
Salut à tous.
Alors, est-ce que vous pouvez, pour commencer, vous présenter,
oui,
pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore.
Oui, nous sommes, on fait partie de la compagnie des 3-8, qui est un collectif et qui dirige... Oui, qui dirige le nouveau théâtre du 8e à Lyon. C'est un collectif d'artistes et un collectif aussi d'administratifs, disons.
Disons que pour nous, le collectif, c'est toute l'équipe, c'est pas que les artistes.
Voilà.
Que la pensée collective qui s'invente dans ce lieu, elle s'invente avec tout le monde. Voilà. Administration, technique, artiste.
Voilà, donc ça s'inscrit autant dans la création que dans la.
Voilà, que dans une démarche par rapport au public, par rapport au. Ouais, une globalité, en fait.
Très bien. Donc le nouveau théâtre du 8e, dans le 8e.
Oui, dans le 8e, oui.
Alors, si on vous a invité aujourd'hui, c'est pour parler du spectacle qui n'a pas encore commencé, je crois, qui va se jouer bientôt.
Ouais.
Duras Platini,
oui.
Et donc, vous inaugurez aussi pour nous, pour l'émission du Théâtre de la Gamelle, notre grand cycle de l'année, qui est la thématique théâtre et sport.
Ouais.
Et voilà, on va commencer par écouter un petit morceau qui introduit votre spectacle et on en parlera plus en détail derrière.
Oui, comme si ça allait s'écrouler autour.
Un malfaiteur hésite, mais à peine.
Au bord des fleuves,
vêtue du peignoir noir de la mort.
À côté de cette femme,
cette foule annonçait trouver un dieu, jeune et bouclé, Michel Platini.
Platini superstar.
Michel Platini.
Platini. Un Platini super.
Dans la tête de Platini.
Platini s'amuse.
Le moral de Michel Platini.
À part le pupin qui nous arrive au sujet de Platini.
Platini à la réception.
Michel Platini, je vous remercie. Vous en prie.
Sur l'émission Le Théâtre de la Gamelle. Avant de commencer l'entretien avec les 3-8, le collectif des 3-8, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook Théâtre de la Gamelle pour commenter, poser des questions en direct ou suivre l'émission ou réécouter les anciennes émissions. Donc on vient d'entendre une bande sonore, je crois, qui fait partie de votre spectacle.
Oui, c'est le début en fait, c'est ce qu'on appelle nous le prologue. Enfin, ça commence par ça, quoi. Cette bande son. Créée par Nachuri, Marie Nachuri. Et voilà, quoi, ça donne une petite. Mais ça donne voilà, un ton. Voilà,
c'est beaucoup autour de Platini et du foot, du coup, un peu moins autour de Duras.
Non. Ça... vous parlez de l'extrait qu'on vient d'entendre. Ouais, ouais. Peut-être qu'en effet, mais. Parce que. Non, ça c'est égal. Hein, c'est, mais. Disons là, je pense que Nachuri a essayé de retrouver un peu de l'atmosphère de Duras, qui est plutôt feutrée, qui est plutôt bon. C'est pas, elle écrit pas dans des stades, et tandis que bon, bah voilà, Platini, c'est ça. Pour revenir au spectacle, enfin pour
revenir. Excuse-moi. Oui. Est-ce que déjà pour commencer, on peut expliquer voilà ce que c'est le spectacle que...
Écoutez, oui.
Voilà, oui, l'argument.
C'est à partir d'un interview, appelons ça comme ça, mais c'est plutôt une rencontre, un entretien entre Marguerite Duras et Michel Platini, qui avait été organisé par Libération, le journal Libération, en 1987. Et là, donc, quand c'était sorti donc dans Libé en 87, et moi, je me souviens encore quand c'est sorti, ça fait quand même, c'était important, quoi. Ce Platini, la légende, en fait, il arrêtait sa carrière là, et donc il rentrait déjà dans la légende. Il était super connu, hein, à 30, il avait 32 ans, mais il était connu à 20 ans. Et Marguerite Duras, qui était à l'époque, c'était déjà le mythe, quoi. Elle avait, d'ailleurs, c'était devenu un mythe, mais elle a mis 40 ou 50 ans pour devenir un mythe, parce que elle en a bavé quand même, avant d'être connue. Alors que Platini, par exemple, à 22 ans ou 21, il était connu. Et puis après, très vite, quoi. Et elle, il a fallu l'amant, en fait, pour qu'elle devienne populaire. Mais avant, elle avait un petit public, comme ça, peu à peu. Mais c'était une femme, en même temps, très, très importante, disons, dans la littérature. Et, on le sait, ça, c'est On va pas appuyer là-dessus.
La rencontre de deux monstres sacrés.
De deux intelligences. Différentes, qui ont en même temps rien à voir l'un avec l'autre. Et puis, c'est la fascination d'un écrivain. Normalement, je devrais dire une écrivaine, mais elle n'aimait pas ça qu'on dise une écrivaine. Mmh. Donc c'est la rencontre d'une femme écrivain, une personne, elle est fascinée quand même par la personne, par Platini. Elle n'est pas fascinée par le football, mmh. Elle est fascinée par Platini. Elle trouve que c'est un être de pureté, il y a de l'angélisme et tout ça. Alors elle dit t'es le seul. Et puis après, plus tard, elle dit, ah mais non, il y en a quand même un autre, Noah, c'est pas si mal que ça non plus. Voilà. Du coup, je ne sais plus où j'en étais.
Est-ce que pour rester pratique, on peut déjà annoncer les dates, le lieu du spectacle, quand est-ce qu'on pourra le voir?
Oui.
Alors, le spectacle, il se jouera du 17 au 28 octobre prochain au Nouveau Théâtre du 8e, qui est donc pas très loin de la Maison de la Danse. Je dis pour les gens qui ne le connaîtraient pas encore, je crois qu'il en reste, bien qu'on soit très très connus. Hein.
Derrière le séjour.
Voilà. Et moi, j'invite les auditeurs à se référer au site www.nth8.com. On joue à 20h, à 17h les samedis et dimanches. Il y a deux ou trois jours de relâche dans la série. Voilà. Les réservations sont ouvertes au 04 78 78 33 30.
Tu peux redis, si tu veux.
04 78 78 33 30.
Ok, on a mis aussi un lien du coup sur la page Facebook pour aller vers le site du théâtre.
Voilà pour les infos pratiques.
Ah, et tout à l'heure, vous m'avez parlé des tarifs, il y a des choses spéciales.
Ah oui, alors c'est vrai qu'au NTH8, ce sera la deuxième saison consécutive qu'on propose une tarification libre pour le public, c'est-à-dire que ce sont les spectateurs qui viennent, qui choisissent combien ils payent. D'accord. Les propositions tarifaires vont de 0 à 100 euros.
D'accord.
Avec quand même des 0, 5, 10, 20, 50 ou 100, et chacun est à même de dire de combien il dispose pour venir au théâtre selon qui il est. Il n'y a pas besoin de présenter une carte, ni de chômeur, ni de famille nombreuse, ni de quoi que ce soit.
Ok, ben, je ne savais pas, mais je trouve que c'est une très belle nouvelle.
Tu n'as jamais eu peur dans un stade ?
Non, j'étais au milieu du stade, protégé par les grillages.
Et les 80 000 personnes ?
C'est le football !
Qu'est-ce que c'est que ce jeu-là, démoniaque et divin ?
Le football est aimé. Pourquoi il est aimé ? Je vais vous dire pourquoi il est aimé. parce qu'il n'a aucune vérité. Il n'a pas de vérité. Le plus fort ne gagnera jamais contre le plus faible au football.
Emploie-moi un autre mot que celui de vérité. Aucune loi ?
Aucune loi. Dans un sport collectif, il faut être plus fort, malgré soi. C'est pas forcément celui qui gagne qui est le plus fort. L'équipe de France est arrivée à un certain niveau parmi les plus forts. Mais après, alors on refait le monde. Pourquoi ? Parce que, par exemple, un gardien a glissé, on a perdu 1-0. Alors on va expliquer, on va foutre la merde dans l'équipe, on va tout faire parce que le gardien, il a glissé. C'est pas de sa faute, il n'avait peut-être pas des bons crampons. Pour ça, le football est fait d'erreurs parce qu'un match parfait, c'est 0-0. Si personne ne fait d'erreurs, c'est 0-0. Donc il y a forcément des erreurs, mais on ne sait pas pourquoi on fait des erreurs. Alors on explique le football à partir d'une erreur d'un gardien de but ou d'un mec qui a loupé son tir. Au lieu de tirer là, le ballon est parti là et il a roulé sous le gardien, on a gagné 1-0, on est champion du monde. Voilà sur quoi réside le football. Il n'y a aucune vérité. C'est pour ça que tout le monde aime le football.
Il faut compter avec l'erreur. Avec l'absurdité aussi. Le type qui fonce dans une certaine direction alors qu'il devrait foncer dans une autre et qui ne peut pas expliquer pourquoi, ça me fait rire aux larmes.
Absolument, oui. C'est un jeu qui n'a pas de vérité, qui n'a pas de loi, qui n'a rien. Et on essaie de l'expliquer, mais personne n'arrive à l'expliquer. C'est pour ça qu'on peut toujours parler du football, qu'on peut faire des articles, etc.
Tu peux aller jusqu'à dire qu'il y a une certaine folie qui s'empare des joueurs ?
Certainement. Il y a une folie qui s'empare des joueurs à certains moments, et à d'autres moments, non.
Vous perdez la tête ?
On peut perdre la tête. On peut tout à coup aller filer un coup de boule à l'arbitre. On peut aller filer un coup de poing à un adversaire, et on joue à 10 et on perd le match là-dessus. Ou bien on a un coup de folie, mais dans le génie, et on va faire un super truc, on va gagner 1-0 et on va être champion du monde. Mais pourquoi ? Comment savoir si ce super truc, on doit le faire à ce moment-là, à la 37e minute ? Et pourquoi ? C'est ça le football, c'est pas possible d'expliquer.
Si ces hommes étaient parfaits, si les joueurs étaient parfaits, il n'y aurait pas de football.
Il y aurait 0-0, il n'y aurait jamais de but. Si personne ne fait une erreur, il y a toujours 0-0.
Mais les chevaux, dans les courses, ils ne font pas d'erreur. C'est beaucoup plus sûr que les hommes.
Ça, c'est des qualités individuelles. Il n'y a pas de question d'être plus malin, d'être plus intelligent, d'être plus sympathique.
Non, non, je veux dire, est-ce que eux, ils connaissent cette folie dont on parle, ou bien elle est exclusivement humaine ?
Oui, ils courent. Ils ont des œillères d'ailleurs. Mais nous, on ne peut pas mettre des œillères.
Alors, vous êtes tous...
On est tous quoi ?
Je ne sais pas comment le dire.
On est des chevaux ?
Non, je dis les chevaux parce que les chevaux, je les aime. J'ai beaucoup de respect pour les bêtes, beaucoup, beaucoup, enfin, autant que pour les hommes. Et les chevaux n'ont pas ça. Ils ne tombent pas dans la folie subitement comme ça.
Comment ? Dans une course, ils peuvent se mettre au galop si ça leur passe par la tête.
Mais oui, ils paniquent. C'est vrai ce que tu dis, c'est vrai.
J'ai déjà du mal à expliquer le football. J'arriverai certainement pas à expliquer les courses pour les chevaux.
Non, mais c'est intéressant les analogies.
Merci, Anne de Boissy, Stéphane Néjon.
Plaisir.
Donc on vient d'écouter un extrait du spectacle. Alors comment vous êtes approprié cette interview de Libération ?
Mais en fait, c'était... Donc justement, le mot interview, c'est pas tout à fait ça. Ça a été une rencontre.
Un entretien.
Un entretien, ils étaient tous les deux.
Il n'y avait pas de médiateur
Non, non. On a pas retrouvé... Ils ont dû essayer de filmer, je pense, parce qu'on a retrouvé 2-3 images, mais je pense, moi, que ça c'est mon hypothèse, que Duras a dû dire non, non, s'il vous plaît, laissez-nous parler.
Du coup, ça a été enregistré ?
Donc, oui, ça a été enregistré, c'est tout.
Voilà.
Et donc, ça veut dire qu'après, c'est devenu une écriture journalistique, c'est devenu une certaine écriture, et et les acteurs, donc aujourd'hui, se sont emparés de cette écriture. Ça veut dire que c'est plus sur le théâtre, c'est plus Marguerite Duras, Platini, c'est un acteur qui représente, qui a la voix, le discours de Platini, et une actrice qui a la voix et le, enfin, pas la voix, une imitatrice bien sûr, de Duras. Voilà. Ce qui crée une, on fait pas un biopic en fait. Oui. Voilà, c'est simplement une question de rythme et tout ça. Il faut que les gens, par moment, se disent, il faut qu'ils, ah bah ouais, c'est, ah bah, qu'ils pensent que c'est Duras, mais en même temps, ils savent que c'est pas Duras, quoi. Et il faut aussi se dire, ah mais on a écrit, si le public se dit, ah on a écrit une pièce sur Platini et Duras, ah d'accord, s'il rentre là-dedans, c'est qu'on a gagné.
Et du coup, dramaturgiquement, vous avez forgé ce matériau, c'est assez fidèle.
C'est complètement fidèle avec ce qu'on appelle nous des collages, qui sont un peu des petites citations qu'on a sorties, soit des films de Duras, soit de ses romans, soit du bouquin de Platini, Ma vie comme un champion, je crois.
Comme un match. Ma vie comme un match.
Donc voilà, mais sans ça, on a gardé l'essentiel. C'est quand même le texte qu'il y a eu dans l'IB, quoi, cette écriture.
Voilà, le passage, par exemple, qu'on vient d'entendre, il était publié comme ça.
Ah oui, texto. Non, et Guy Néjean, il parlait tout à l'heure de deux intelligences qui se rencontrent, et je trouve que, enfin, moi j'aime bien cet extrait parce que je trouve qu'on voit vraiment qu'il y a l'intelligence de Platini sur le foot et que ça devient un support de. Pour elle, qui part toujours dans d'autres espaces où il y a des moments où les deux intelligences des fois se croisent et des fois sont vraiment dans des mondes parallèles et se comprennent pas là où elles pourraient s'attendre, quoi. Mais par contre, les deux intelligences, je trouve, résonnent ensemble, même si elles sont pas toujours sur la même longueur d'onde. Elles s'expriment en tout cas.
Parce que même dans le projet de faire cette rencontre-là, moi je me disais ça peut être un peu fabriqué, même. Enfin, pourquoi? Quel est leur point commun?
Je vais dire déjà le point commun du football et du théâtre, quand même. Parce que pour les gens de théâtre, par exemple, s'ils viennent voir ce match, cette pièce, eh bien, ça leur parle beaucoup parce que le rapport des joueurs avec le foot, c'est le rapport des acteurs avec le théâtre. C'est-à-dire, on doit jouer ensemble, on ne doit pas jouer tout seul, etc. Et puis plein d'exemples que donne Platini qui ont un rapport avec le théâtre. Et ça, c'est super intéressant. Et ce que je voulais... Attends, je voulais dire un truc, là. Je fais comme chez moi. Je jouais une affiche, là, qui vraiment serait... collerait bien avec, par exemple, ce que dit par moment Duras quand elle parle du stade et de la peur qu'on peut avoir avec les supporters. C'est vrai que ça fout la trouille quand on y va des fois. Et là, je vois combattons le fascisme et le racisme et dans votre local là. Et c'est un peu ça aussi. C'est une chose qui fait partie du réservoir intellectuel de Duras, quoi. Hein, même si elle croit plus à la politique.
Et du coup, pourquoi c'est toi, Guy, qui a choisi du coup de faire ce...
qui a choisi de faire le spectacle, ouais. De ce texte. Oui, ouais. Oui, c'est moi. Oui,
tu
oui.
saurais dire pourquoi? Parce que les raisons que tu viens de citer.
Écoute, il y a plusieurs raisons, c'est quand un acteur ou un metteur en scène. Ça... Mais la raison, c'était que. La première raison, c'est que j'ai découvert le texte en 87. Et en 98, on habitait, les 3-8 habitaient dans une friche, à l'époque, à Villeurbanne. Et. En 1998, la France a gagné la Coupe du Monde, tout le monde le sait, et on avait fait une fête, en fait.
Sur le foot.
Et sur le foot. Voilà. Et moi, j'avais trouvé je savais que ce texte existait, j'avais retrouvé, et déjà avec Stéphane, et une actrice, c'était pas Anne, c'était Descôtes, qui s'appelle. Corinne Descôtes. Putain, si elle m'écoute. Donc c'était Corinne Descôtes qui jouait Duras. Et donc c'était donc à peu près 11 ans après, je crois. Et puis j'ai dit tiens, c'est marrant, ça nous plaisait. On avait joué 10 minutes, hein, comme ça. Et puis il y a pas longtemps, je lisais du Duras. Je me suis replongé dans Duras, en fait. Je me suis immergé dans Duras. Et puis, j'ai d'un seul coup, je me suis dit, mais ça serait pas mal de faire ça aujourd'hui. Parce que, en fait, elle est née en 1914, elle va presque avoir 100 ans. Enfin, ça, l'anniversaire de sa naissance, bientôt. Et puis, j'ai eu envie, d'un seul coup, de reprendre cette chose. Et puis, je trouve que, avec aussi la façon dont on parle de football aujourd'hui, je veux dire, t'as plus envie d'y aller, en même temps, t'aimes bien ça. Enfin, je parle pour les gens qui aiment aller au foot, qui sont des... Et puis, tu te dis des fois, ah, c'est pas possible, ça fait peur, et tout ça. Toutes ces histoires d'argent, et tout ça. Et puis, donc, j'avais envie d'essayer de parler de tout ça. Même si j'adore le foot, quoi. Et puis, mon boulot, c'est de faire du théâtre, d'abord.
Et du coup, tout à l'heure, là, tu parlais des points communs là, entre le théâtre et le foot. En préparant l'émission, tu nous as cité une phrase de Brecht aussi, davantage de sport.
Oui, dans ses écrits, Brecht, il regrettait, il disait davantage de sport au théâtre, parce qu'il disait les stades sont pleins, c'était surtout par rapport à la boxe à l'époque, je crois. C'était plein, et lui, il ramait aussi. Il voyait bien qu'il y a des choses qu'on. Il se disait, on doit pouvoir avoir autant de monde que dans le sport. Parce que nous aussi, on fait du sport. Et donc, j'ai trouvé ça intéressant. Quoi. C'est une vieille. C'est vrai, il a dit ça il y a 100 ans, mais bon, ça tient le coup encore. Hein.
Alors, est-ce que ça veut dire que tu demandes à tes comédiens une vraie performance physique sur le plateau?
J'ai pas besoin de leur demander, ils la font.
Juste, pour dévoiler un peu votre dispositif, comment vous...
On a des préparateurs physiques.
Ah. Vous avez des contrats publicitaires aussi?
Oui, c'est tous les 3-8, ça. Hein. Mécénat, contrat publicitaire, on fonctionne comme ça. Hein. On a travaillé. Moi, je dirais qu'on a commencé à travailler sur ce spectacle l'année dernière, en fait.
Oui.
Le dispositif scénique est très simple, hein. Vraiment très très simple. Il y a deux fauteuils et deux espaces qui...
Qui est le Yann.
Johan Tivoli signe la scénographie et les lumières, j'espère qu'il nous écoute.
Et d'ailleurs, oui.
Mais en fait, je dirais aussi que ce projet, on a travaillé très en douceur, justement pour avoir... une certaine distance par rapport à la notion de performance, je crois, et pas essayer de se mettre une pression pas au bon endroit sur le fait d'incarner Duras ou Platini, mais d'essayer de connaître un peu, d'en avoir sous le pied par rapport à ces gens-là et de savoir par rapport à ce qui est dit dans l'instant de l'interview, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre dans leur vie qui peut nourrir cet instant précis. Mmh. Donc on a bossé déjà 4-5 semaines la saison dernière, tranquille, on a eu vachement le temps de relire les œuvres, de revisionner beaucoup de choses ensemble, de se dire tiens, c'est marrant, il a dit ça à Platini à telle période, ou d'écouter dans le ravissement de la parole Duras pour beaucoup nourrir ses points de vue politiques, tout ça, et que ça fasse pas juste parler du Hesel. Et là, cette année, je trouve que du coup, on se retrouve pour 4 semaines consécutives avant la première. Et bien sûr, il y a l'espèce de truc de se dire que c'est Duras et c'est Platini, mais je pense que c'est aussi comment, quels imaginaires on va essayer d'ouvrir dans la tête des spectateurs avec ces deux figures-là, plutôt que de fermer en essayant de les représenter. C'est plutôt quelles pensées se développent à eux deux qui feront gamberger les gens, plutôt que d'en faire une finalité, en fait. Cette rencontre, c'est aussi un espace d'écoute pour les spectateurs qui re-questionnent aujourd'hui, qui... C'est un peu ça qu'on essaye de faire résonner, on n'est pas trop naïf, on est assez conscient, je pense, de qui on est. Et du coup, qu'est-ce que ça apporte de traverser des figures comme ça, en fait? De traverser pendant 1h10, la durée du spectacle, c'est 1h10, une figure comme Platini ou comme Duras. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pense Stéphane, qui joue Michel Platini, mais moi, ça me fait ça, pour l'instant.
Pour moi, c'est... D'abord, je vais revenir en arrière. Moi, je suis le foot depuis l'âge de 8 ans. Donc, j'ai bien connu Michel Platini, tout ça, toute cette épopée. Donc, voilà, l'épopée des Verts, tout ça. Hein. Désolé pour les Lyonnais. Et, donc, voilà, quand Guy m'a proposé ça, pour moi, c'était super. Parce qu'il a une parole sur le foot. Et même, il m'apprend des trucs sur le foot. Sur comment on fait pour gagner un match, tout ça. Pour moi, c'est... J'apprends. Donc, c'est pas une performance. Hein, à part que j'essaye de faire quelques jongles. Et si j'y arrive, ce sera une vraie performance. Croyez-moi.
Ok, on va écouter un petit extrait sonore avant de continuer. À tout de suite.
Thank you.
cette lumière.
La mousson, dessous le Bengale.
Cette poussière là-bas,
Calcutta Central.
Cette rumeur,
le Gange.
Où est-on?
L'ambassade de France aux Indes.
Il y a comme une odeur de fleurs.
La lèpre.
Cette couleur verte, elle grandit.
L'océan Indien.
Ces joncs.
Le riz.
Sur les talus, ces taches sombres.
Les gens, la densité la plus élevée du monde.
Ces miroirs noirs.
La rizière indienne.
Ces lueurs là-bas. On brûle les morts de la faim.
Oui, le jour vient.
Cet amour.
L'amour.
À l'autre bout du hall,
les touristes de Ceylan.
Quelle est blanche, quelles sont blanches les femmes de Calcutta.
Pendant 6 mois, ne sortent qu'avec le soir. Fuit le soleil.
Morte là-bas,
aux îles. Trouvée morte, une nuit.
Ce mot. Celle qui vient dans cette odeur de fleurs.
Une mendiante.
Folle.
C'est ça. Elle vient de Birmanie.
Maigre.
La faim.
À Calcutta, elles étaient ensemble.
Oui. C'était pendant les mêmes années.
Tu vas vivre de quoi maintenant ?
Je vais vivre de ma famille.
Tu as 2 enfants ?
Oui, 2. De 9 ans et de 7 ans. J'aimerais bien les voir grandir. Je les ai vus grandir, mais je veux encore les voir grandir. Et puis après, je vais m'occuper de ma marque et de télévision.
Ta femme n'est pas italienne ?
D'origine, oui, par son père. Sa mère est suisse.
C'est après quel match que tu es allé la chercher à la boule ?
C'est après le match où je me suis fait siffler au Parc des Princes, où le public m'a demandé de sortir.
C'est pas le Hesel ?
Non, non. C'est quand François Mitterrand est devenu président. C'était en 1981, contre Stuttgart, un match amical de préparation avec l'équipe de France. Et Mitterrand venait d'être élu 15 jours avant. Après, je suis revenu jouer contre Paris Saint-Germain. On m'a encore sifflé, mais c'était normal, parce que j'étais de la Juventus qui jouait contre le Paris Saint-Germain.
C'est cette fois-là qu'il t'a donné la médaille ?
Non, non, c'était en 1984.
Tu es resté bien avec lui ?
Je suis bien avec tout le monde. Du moment que personne ne vient m'embêter et qu'on n'essaie pas de me récupérer politiquement, je suis bien avec tout le monde.
Oui. Moi, je suis une amie du président. Je l'ai interviewé plusieurs fois d'affilée. Je ris parce que je ne vois pas François Mitterrand te récupérer du tout. Pourquoi ? Pour faire quoi ?
La politique, c'est un autre monde. Moi, le jour où il y a un gouvernement qui ne recrute pas son personnel dans son parti parce qu'ils ont les mêmes idées que lui, mais qu'il le recrute parmi ceux qu'il juge les mieux qualifiés pour le faire, les meilleurs, alors je suis d'accord. De même qu'il existe une équipe de France qui est choisie parmi les meilleurs de tous les clubs, de même je crois possible la formation d'un gouvernement comme ça. Les meilleurs, ce ne sont pas forcément les amis de gauche ou de droite. Pour moi, c'est faux au départ, parce que j'ai une déformation. Ma vie, c'est le football, et le football, c'est une déformation.
Le terrain de football, cet endroit où jouent les joueurs, où ils sont enfermés, c'est un théâtre que les spectateurs regardent. Un lieu d'affrontement, donc un lieu déjà politique. Dès que tu as un enjeu, même celui d'une victoire banale, tu as celui d'une défaite, déjà moins banale. Celle de sa justification par l'insulte. Tu ne joues plus pour jouer, tu joues contre un ennemi. Et tout est bon pour essayer de le salir, de justifier sa défaite. Personne n'échappe à cette horreur. Bien sûr, il n'y a pas de traduction politique de ce qui se passe pour un stade, mais déjà, il y a un rejet, un racisme, tous les mots sont bons. Toi, tu n'as jamais fait de rejet, j'en suis sûre.
Jamais, c'est vrai.
Il y a une sorte de pré-fascisme, de fascisme innocent qui traîne dans les stades, comme déjà, c'est sûr, dans les écoles, dans les universités, les personnels des partis politiques.
Vous savez, à part quelques exemples de matchs où il y a deux fractions dans les stades, au Parc des Princes, on est tous français, ou à Londres, ils sont tous anglais.
Mais je veux dire, c'est la même humeur qui est à la base du racisme.
Je ne pourrais pas vous suivre sur ce domaine que je connais très peu.
Le football a été un endroit de misogynie il y a longtemps. Les femmes n'allaient pas au football.
La politique aussi.
La politique aussi. C'est fini.
Le football, c'est fini. Il y a des équipes de foot féminines partout.
Je parlais du public des femmes. On n'emmenait pas les femmes voir du football parce qu'elles n'étaient pas capables de le comprendre, disait-on.
Merci encore une fois, vous êtes toujours sur l'émission Le Théâtre de la Gamelle. Donc on vient d'entendre un extrait où cette fois c'était plus Marguerite Duras qui menait le...
Ouais, plus ça se développait sur une de ses pensées, ouais. Platine, il joue un peu en touche.
Ouais, il y a des beaux échanges. C'est un beau match.
Tactique.
Hein. Ouais. Oui, je trouve qu'elle arrive vraiment à... Elle arrive, en parlant de foot avec Platini, à ressortir toutes ses obsessions, en fait, à recreuser toutes ses obsessions, Duras.
Mais là, ce moment-là de la représentation, en fait, c'est une petite rupture. On sent de la déception chez Duras parce qu'il dit oh, moi c'est pas mon terrain ça le racisme, excusez-moi, je vais pas vous suivre là-dessus. Et là elle réattaque sur la misogynie, mais on sent qu'il y a quelque chose qui s'est un peu cassé, le ressort s'est un peu cassé. Bon, plus tard elle va dire c'était génial cette rencontre avec Platini, parce que de toute façon elle ne dit jamais la vérité, elle pratique le mentir vrai. Donc on ne sait jamais si c'est vrai. Quand on lit ses romans, on ne sait pas ce qui est inventé et ce qui est d'elle et tout ça. On ne le sait pas. Et elle dit, du moment que je l'ai écrit, c'est vrai. Voilà, c'est tout. Donc, voilà. En fait, j'étais parti sur... Ah oui, non, je voulais dire aussi qu'ils ont un point commun, mais je ne sais pas si je l'ai dit.
Non.
Non. C'est que lui, il veut faire du foot depuis l'âge de 7-8 ans. Il allait à l'école avec son ballon, on lui disait, mais alors tu dors avec ton ballon. Il avait la passion déjà à 7-8 ans, et il est devenu footballeur. Et elle écrit depuis l'âge de 12 ans, elle faisait des cahiers, tout ça, elle montrait ça à sa mère, elle faisait des poèmes, et elle disait, je veux écrire. Je veux écrire. Et... Donc, ils ont tous les deux en commun d'avoir une passion, en fait. Et ça, c'est un des fils importants de ce spectacle. Le mot passion revient vraiment plusieurs fois. Quoi.
Et du coup, ils reconnaissent leur passion commune dans le texte. C'est plutôt tacite.
C'est-à-dire que c'est plus facile pour Duras. Elle s'intéresse bien au foot. Lui, il s'intéresse pas à la littérature, quoi. Mmh. Les footeux, d'ailleurs, il y a une anecdote comme ça où on raconte que Bernard Pivot avait envoyé une caisse de livres à l'équipe de France. Et la légende dit qu'en fait, il y en a qu'un qui a pris des bouquins, c'est Rocheteau. Les autres n'ont rien pris. Donc voilà, ça veut pas dire qu'ils sont bêtes. Hein. Ils lisent pas, quoi, mais ils sont pas les seuls à ne pas lire. Et à notre époque, on sait bien que la littérature a du mal.
Oui. En tout cas, pour revenir à une question que je posais au début sur...
Je me suis un peu éloigné.
Non, mais c'est... On est dedans. quand je disais que ça me paraissait un peu fabriqué, cette rencontre, je trouve que dans l'extrait qu'on vient d'entendre, on comprend bien comment Marguerite Duras, elle arrive à tirer les fils de ce qui l'intéresse, elle, dans cette rencontre. Oui, oui. On sent que c'est pas...
Et puis, je pense que Duras, elle n'a pas peur des instants de rupture. Elle n'a pas peur que les choses ne soient pas de l'ordre de la conversation. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui était capable de provoquer des silences, de tomber dans des pannes, ou des choses où on n'a pas d'automatisme de réponse. Enfin, je trouve qu'elle, sa personne dans les interviews qu'on a pu voir à la télé, avec Pivot, tout ça, on voit bien qu'elle n'est pas... Elle s'autorise à ne pas être dans une séduction de la parole dans l'instant. Enfin, elle peut être très autoritaire dans la pensée à des moments. Et du coup, je trouve que ça, c'est une qualité qu'elle avait quand même de dire. Et puis peut-être derrière, il n'y a rien d'autre à dire. Enfin...
Ce que je pense aussi, là, ça me vient à cet instant, c'est en fait, ce sont deux personnages tragiques. Je trouve que, bon, Duras, on sait, mais elle le joue, ça, qu'elle souffre, que la misère du monde, elle s'intéresse au monde et tout ça. Mais lui, il dit pas ça, mais on sent bien. C'est un peu, il y a un bouquin qui s'appelle l'angoisse du gardien de but au moment du penalty. Et ça, justement, quand il loupe ses penalties, par exemple, ça lui arrive une fois, dans une Coupe du Monde, c'est la tragédie, quoi. C'est du tragique, quoi. Et on sent que des fois il se marre, tout ça, il est gay, mais en fait, moi je suis persuadé qu'à l'intérieur, Platini, c'est pas tout rose. C'est pas très gay, quoi. La gaieté du désespoir, quoi, un peu.
Donc là, on retrouve aussi peut-être une passerelle un peu souterraine entre deux énergies.
Parce qu'il faut le dire quand même, enfin, parce qu'il a vécu un drame aussi. Bon, on peut pas faire focaliser là-dessus, mais le Hesel, ça l'a quand même. Ça lui a laissé des traces, quoi. Je veux dire.
C'est quoi en fait?
Le Hesel, c'est un drame qui s'est passé en 85. C'est là où la finale Liverpool-Juventus, où une tribune s'est écroulée. Enfin, des gens ont été oppressés contre les murs, quoi. Et il y a eu 37 morts. Donc,
le match a eu lieu.
Ils ont joué et Platini a tiré un penalty. Il l'a marqué. Pour lui, il en parle encore. Enfin, c'est très dur.
C'est assez présent dans le texte. La catastrophe du Hesel, elle a fait date dans l'histoire du foot parce que c'était un mélange de mouvements de foule, de hooligans, de catastrophes en direct à la télévision qui a été vue par des millions de gens, d'un match qui a eu lieu alors qu'il y avait des morts. Enfin, ça a été un truc, c'est vrai, marquant que moi j'avais vu quand j'étais petite aussi.
Et là, la télévision était très contente. Elle était sur le coup.
Grand spectacle morbide en direct.
C'est presque le début de la fin du foot, quoi. Enfin, mais pas à cause du drame, mais à cause justement de la médiatisation, quoi. Maintenant, c'est ça, quoi. C'est pour ça. Moi, j'étais un passionné de foot, maintenant, c'est fini, quoi. Voilà, tout simplement.
Okay. Je vais faire un petit virage pour finir. Est-ce que vous pouvez parler un peu de votre rapport au public? Est-ce que vous essayez aussi, par le biais de ce choix de texte, d'interroger, du coup, d'élargir un public, oui, d'essayer de vous intéresser?
Enfin, on élargit par des ateliers, on pense à faire des ateliers dans les écoles, dans les lycées, trouver comme ça le rapport femmes, justement, parler des femmes dans le sport, voilà. Enfin, je sais pas si c'est ce que vous appelez élargir.
Parallèlement, je pense que si certaines personnes qui aiment le foot aurait l'envie et du coup passerait les portes du théâtre parce que ce spectacle rassemble le foot et la littérature, ce serait super. Nous, on a fait un travail dans ce sens. C'est pas du tout un spectacle qui est difficile d'accès. C'est très simple, c'est très direct. La pensée, si un spectateur comprend pas, ça veut dire qu'il y a un des deux acteurs, des personnages qui comprend pas non plus. Enfin, personne n'est devant personne. Et c'est vrai qu'il y a en tout cas une envie de... Le foot, c'est populaire.
Oui.
Le théâtre contemporain l'est moins. Nous, on fait du théâtre contemporain dans un quartier populaire. On est dans des tours. Donc, si des gens qui aiment le foot viennent voir du théâtre contemporain, le théâtre contemporain n'étant pas automatiquement ennuyeux, c'est chouette. On a fait un travail dans ce sens, mais après, il faut d'abord qu'un spectacle vive pour que sa rumeur puisse toucher aussi une population pour qui c'est pas dans ses codes. Donc on en est là. ce spectacle, on pourra peut-être le reprendre plus tard, l'année prochaine et tout, mais dès cette saison, on a fait un travail avec l'OL féminin aussi, puisqu'on sait bien que les matchs de l'OL féminin, où il y a moins de monde, moins d'argent, tout ça, remettent en place les valeurs du foot qui étaient celles du temps des Verts, c'est-à-dire un bon jeu, beaucoup de buts. Du coup, ça, on verra, on se rend pas compte du tout là de la réactivité qu'on aura.
On espère, nous aussi, de notre côté, que vous allez avoir de la réactivité. On va écouter un dernier extrait sonore pour finir cet entretien. À l'écoute de l'émission Le Théâtre de la Gamelle pour la dernière partie, les 10 dernières minutes. Donc, on va récapituler donc, sur le spectacle dont on est en train de parler, Duras Platini, au Nouveau Théâtre du 8e, NTH 8. Mmh. Est-ce que vous avez
du
l'adresse?
Du 17 au 28. Alors, l'adresse, c'est 28 rue Commandant... 22, pardon, je mets des 8 partout. 22 rue Commandant Pégou, bon maintenant le 8e, il y a le tram T4, arrêt CISL. Je redis juste, bon voilà, les lumières sont d'Yohann Tivoli, le son de Marina Churi, les costumes de Clara Onibene, la mise en scène bien sûr de Guy Néjon, et que c'est une production des 3-8. Voilà, on joue à 20h et à 17h les week-ends.
Donc du 17 au 28.
Du 17 au 28, et je renvoie encore une fois sur le site www.nth8.com.
Voilà, et le numéro de téléphone pour
04 78 78 33 30.
Merci beaucoup, merci à toute l'équipe. On va continuer tout de suite. Alors, c'est une nouveauté de la saison 3 du Théâtre de la Gamelle. Nous allons accueillir à chaque fois que nous faisons une émission dans le cycle Théâtre et Sport, Shaoki Derbel.
Oui, bonjour.
Bonjour Shaoki. Parle bien dans le micro.
D'accord, oui, bonjour.
Donc, qui va nous lire à chaque fois des textes, donc pas forcément théâtraux, mais voilà, qui sont à la frontière entre sport et littérature.
Oui. Ben, en l'occurrence, c'est Courir de Jean Echenoz. Donc, c'est un roman qui parle d'Emil Zátopek, en fait, donc ce coureur tchécoslovaque. Et en fait, ça s'inscrit dans un triptyque, c'est-à-dire que Jean Echenoz a écrit sur trois figures, que ce soit Ravel, Zátopek et la troisième personne, j'ai oublié son nom, mais bon, mais voilà, en fait, ça s'inscrit là-dessus. Et voilà, bah
tu nous lis un extrait voilà. De Courir de Jean Echenoz.
Ouais. Il a beau ne pas gagner toutes ses courses, n'empêche qu'à force d'accumuler ses records, Emil est devenu, l'air de rien, l'idole de son pays. Ce qu'il représente maintenant aux yeux du public tchèque, c'est simple. Il suffit qu'un matin paraisse dans les journaux une brève indiquant qu'il se mettra en piste à 18h pour que 20 000 personnes se battent le soir même à l'entrée du stade Masaryk. On lui propose une fois de représenter l'armée tchécoslovaque au championnat des forces alliées qui vont avoir lieu à Berlin. Fort soutenu par sa hiérarchie, sa demande de participation est agréée. Bon, dit Emile, très bien, j'y vais, mais il part seul un vendredi, en tenue militaire et en train, direction Berlin, avec changement à Dresde. Les championnats doivent débuter le samedi, et n'arrive à Dresde que vers minuit. La ville a été entièrement détruite par les bombardements, ce ne sont qu'immeubles effondrés, chaussées défoncées, ruines pendantes, il ne reste plus grand-chose de Dresde, à part la gare. En sortant de celle-ci, Emile essaie de trouver son chemin parmi les décombres. Pas une lumière dans les rues dévastées, personne ne peut lui indiquer son chemin, Emile est affamé, fatigué, il a sommeil, et à part ça, il pleut des cordes. Il finit par tomber sur un lieutenant américain qui met d'abord un temps fou à le comprendre et à identifier son uniforme, puis qui accepte de le guider. Emile le suit jusqu'à une sorte de salle d'attente, ancien abri anti-aérien où traînent quelques sentinelles. Les soldats désœuvrés sont contents de voir quelqu'un venir meubler leur ennui, surtout vêtus de cette tenue bizarre qu'ils n'avaient jamais vue. Il s'étonne, mais dans l'état où il est, Emile n'a pas très envie de s'expliquer. Il doit courir demain, c'est ce qu'on lui a fait comprendre, le train pour Berlin part à 5h du matin, ce serait bien de pouvoir se reposer un moment s'il ne veut pas arriver au stade épuisé. Les sentinelles s'en foutent, n'arrêtent pas de lui poser des questions qu'Emile ne comprend pas. Il essaie de leur répondre par gestes de plus en plus évasifs et dilatoires. Les soldats se découragent, le laissent enfin tranquille, lui désignent un banc, Emile se couche dessus et dort une heure ou deux. Il n'arrive à Berlin que le lendemain après-midi, plus fatigué que jamais, toujours tout seul et mort de faim. Il se débrouille pour savoir où se trouve le stade, s'y précipite pour ne pas rater le départ de l'épreuve, il n'en peut plus. Entré dans les lieux après qu'on lui a fait toute une histoire au contrôle, se perdant sans cesse dans l'énormité du bâtiment, posant à son tour des questions que personne ne comprend sans pour autant saisir ce qu'on essaie de lui répondre, il réussit enfin à trouver un des organisateurs. Emile est soulagé d'apprendre que sa course n'est prévue que pour le jour suivant. Mais ce n'est pas tout. Il faut encore s'inscrire et donc trouver d'abord l'autre organisateur chargé des inscriptions. On finit par le lui indiquer et cette fois c'est un capitaine anglais qui s'occupe de la liste. « Quel pays ?» demande le capitaine. « Tchécoslovaquie, » répond Emile. « Bien, » dit le capitaine, « combien de participants ?»« Eh bien, » dit Emile, « moi. » « Oui, » dit le capitaine, « d'accord, mais à part vous ?»« Eh bien, moi, » répète Emile, « juste moi. » « Ah bon, cet homme le capitaine en hochant la tête, juste un. »« Oui, » confirme Emile, « juste un, moi. » Bon, patiente le capitaine, et c'est pour quelle épreuve ? Le 5 mm, dit Emile. Va pour le 5 mm, dit le capitaine en s'apprêtant à porter son nom sur la liste appropriée. Puis il se reprend, suspend son crayon et considère longuement Emile, et sans doute le trouve-t-il un peu débraillé, tout froissé, parasé, mal peigné, pas l'air très sérieux somme toute. Et vous avez déjà couru 5 mm, insinue-t-il avec douceur ? Bah ça oui, dit Emile plusieurs fois. Très bien, dit le capitaine de plus en plus onctueux. Et quel temps avez-vous atteint sur cette distance ? Ma foi, répond simplement Emile, j'ai fait 14 minutes, 25 secondes, 8 centièmes. Pardon, sursaute le capitaine. 14 minutes, 25 secondes, 8 centièmes, répète Emile. Un instant, dit le capitaine, c'est possible ça ? Ben, vous pouvez vérifier, dit Emile, c'est facile, Oslo, championnat d'Europe. Bien entendu, bien sûr, dit le capitaine en notant précipitamment le nom d'Emile. En sortant de là, ne trouvant pas de voiture, Emile embarque sur la plateforme d'un camion qui l'emmène vers les baraquements assignés aux participants. C'est un camp minable et boueux où d'abord Emile se perd encore pour finir par se voir accorder un galta où, ensuite, un soldat ivre et déboutonné lui apporte un fond tiédasse de tasse de thé. Il boit ce thé, dort comme une souche et le lendemain il retourne au stade. C'est celui qui a été construit avant la guerre pour les Jeux Olympiques, la fois où le Führer aurait refusé de serrer la main de Jesse Owens à cause qu'il était nègre. Bon, Jesse Owens s'est maintenant retiré de la compétition mais Larry Snyder, son entraîneur d'alors, fait aujourd'hui partie des invités d'honneur. Les Américains ont décoré le stade de la même manière qu'à cette époque. Il n'y a plus de place libre aux tribunes et le public est surtout composé de soldats. Ça commence. Un défilé d'athlètes de toutes les nations prenant part au championnat doit ouvrir la compétition. Le nom de chaque pays est inscrit sur une pancarte portée par un soldat devant les ressortissants des états respectifs. On va y aller. Emile cherche partout le porteur de la pancarte où doit se trouver l'inscription « Tchécoslovaquie ». Et dès qu'il a trouvé, se présente en lui tendant la main et souriant comme toujours. C'est encore un soldat américain qui considère Emile comme la veille l'a fait le capitaine, puis cherche du regard quelqu'un derrière lui, ne voit personne et, revenant vers Emile, « Quoi ?» dit-il, « juste un ?» Emile pourrait commencer de s'habituer, mais non, il est embarrassé, il acquiesce d'un signe de tête, « Oui, » répond-il enfin, « juste un bon, ?» Le soldat ne peut cacher le mépris que lui inspire ce minable. Au départ, il ne trouvait pas mal de défiler devant une bande d'athlètes, à présent, il se sent ridicule de ne devoir marcher que devant un seul. Son prénom est Joe et d'un coup... Joe n'a plus de goût à rien, il est presque humilié. Il laisserait bien tomber tout ça maintenant, mais c'est un peu tard. Trop tard. La fanfare attaque les premières notes d'une marche d'ouverture. Joe se fend tristement d'un sourire torve. « Allez, viens, » dit-il avec amertume, comme outragé dans son honneur. « On y va, viens donc. » Les athlètes entrent dans le stade par la grande porte, commencent à défiler devant les tribunes sous les clameurs, tous vivement ovationnés dans leur belle tenue d'entraînement. Mais quand un seul individu paraît derrière la pancarte Tchécoslovaquia, seul et seulement vêtu d'un short et d'un haut de survêtement délavé, le stade entier s'effondre de rire. Tout le monde se lève pour mieux voir ça. Les envoyés spéciaux tirent leur calepin de leur poche et se lèchent les lèvres en fourbissant leur adjectif pour bien noter la scène. Les reporters d'actualité et les caméramans la filment et la photographient avec bonheur en aiguisant leurs angles. Émile a beau être d'un heureux naturel, il est quand même assez blessé par l'énorme hilarité qu'à lui seul il vient de provoquer. Il est donc tout seul, il se sent très seul et plutôt malheureux après que Joe l'a vite laissé tomber, dès la fin du défilé, en jurant et jetant sa pancarte par-dessus son épaule. Il écoute les discours d'ouverture sans les comprendre, tout en contemplant distraitement les drapeaux nationaux qui flottent ou bien qui pendent. Bon, j'ignore si le vent souffle ce jour-là. Émile s'est assis à l'ombre dans un coin de tribune, il est un peu voûté, il considère alternativement ses pieds et le mouvement sur la piste, en attendant qu'il se passe quelque chose. Or, un Tchèque émigré, engagé dans l'armée américaine, l'a quand même repéré comme une bonne occasion de parler un peu la langue. Il vient s'asseoir près d'Émile et discute un moment avec lui. « Et toi, alors » finit-il par lui dire, « tu cours sur quelle distance ?»« 5 kilomètres, » répond Émile d'une voix lasse. « Quoi ?» s'écrie l'autre, épouvanté. « Tu ne sais pas que ça fait un moment qu'on a convoqué ceux du 5000 ? On les a même appelés 3 fois. Regarde le coin là-bas. Ils y sont déjà tous. » Émile s'étrangle, saute sur ses pieds, bondit hors de la tribune et fend la diagonale du stade sur un train de sprinteurs décérébrés. Tout en se débarrassant en courant de son survêtement, ce qui l'aveugle un instant et manque de lui faire se casser la figure. Il pousse des cris en agitant les bras, essayant d'attirer l'attention des hommes groupés sur la ligne de départ. Heureusement, il arrive à temps. « Qui c'est, lui ?» l'accueille-t-on sans aménité. « Vous aussi, vous voulez courir ? Et vous sortez d'où ?» On cherche son nom sur la liste, on ne le trouve pas. En l'inscrivant la veille, peut-être impressionné par les 14 minutes 25 secondes 8 centièmes, le capitaine a oublié de reporter les corrections sur la liste destinée aux starters. Mais quelques concurrents étrangers qui sont là ont déjà vu courir Émile. Ils le reconnaissent, témoignent, on lui permet enfin de courir. « Bon, ça va, bougonne le starter, ça va, mais alors vous vous mettez là, derrière, au deuxième rang, dans ce couloir. » Bon, Émile, cette fois, commence à en avoir marre et se permet de protester. Comme il s'efforce de prouver qu'il a le droit à une place en bord de piste, les autres coureurs solidaires le soutiennent. Eux connaissent le parcours d'Émile, ils savent qu'il est très bon, qu'il fait partie de ceux qu'on place au bord. D'accord, grogne le starter avant de lever son pistolet. Allez, on y va. Comme Émile, énervé par cet accueil, choisit d'adopter dès le départ une très forte vitesse, il lui faut peu de temps pour se débarrasser de ses adversaires les plus puissants. Son allure est même telle qu'il a bientôt devancé d'un tour entier les derniers coureurs. 80 000 spectateurs se lèvent alors en criant, d'un seul mouvement, car Émile leur donne un spectacle qu'ils n'avaient jamais vu. Ayant déjà pris ce tour à tous ses adversaires, il entreprend maintenant de les dépasser à nouveau l'un après l'autre. Et à mesure qu'eux accusent le coup et ralentissent, lui accélère encore de plus en plus. Bouche bée ou hurlante, éberluée par la performance autant que par cette matière de courir impossible, le public du stade n'en peut plus. Debout comme les autres, Larry Snyder lui-même est effaré par ce style impur. Ce n'est pas normal, juge-t-il, ce n'est absolument pas anormal. Ce type fait tout ce qu'il faut pas faire et il gagne. Mais le plus heureux de l'affaire, celui qui ressent la plus grande allégresse, c'est le porteur humilié. Le cœur de Joe, en cet instant, est dilaté d'orgueil. Dans un moment, Émile va devoir prendre part au défilé final, sa médaille épinglée sur son haut de survêtement. Avant de le rejoindre, il aperçoit de loin son soldat américain, sa pancarte à la main, qui l'attend avec impatience et qui, fou de fierté, se jette sur lui dès qu'il peut. « Juste un !» crie-t-il en l'étreignant et riant au bord des larmes. « Juste un, juste un !» Il le touche, le serre, le tripote, le pétrit. Il est tellement content qu'il pourrait le battre. En marchant tout à l'heure devant Émile, dans le défilé, Joe va rayonner de triomphe et de félicité, se sachant à présent envié, jalousé par tous les autres porteurs de pancartes du monde, juste un nom de Dieu.
Merci, Jacky.
Merci à vous.
Bon, je prends la responsabilité, on va prendre 5-10 minutes de plus pour finir l'émission, on est un tout petit peu en retard, désolé. On va enchaîner maintenant avec notre chronique hebdomadaire, je ne sais pas trop comment elle s'appelle.
La chronique hebdomadaire cette semaine, donc c'est sur la pièce « L'atelier volant » que je suis allée voir mardi dernier au TNP, donc l'atelier volant de Valère Novarina. Pour faire un peu bref, y a sur le plateau, on trouve un énorme cube qui a été créé par Philippe Marioge, qui se transforme en fait tout au long du spectacle. Et on est tout de suite accueillis en fait par 5 employés qui sont habillés de manière uniforme, avec une sorte de sac à patates informe, rapiécé, gris. Tout au long de ce beau spectacle, ils produisent à la chaîne des boîtes rouges. le soir au magasin dont l'épicier n'est autre que la femme du patron, ils achètent des boîtes rouges, celles qu'ils ont fabriquées le jour même. Ainsi passent les jours monotones. Mais la concurrence internationale pousse à l'accélération de la production, la chaîne s'emballe, les gestes sont économisés, les boîtes rouges s'accumulent. Il ne faut pas perdre des places sur le marché, produire toujours plus et moins cher que son voisin. Mais un jour, catastrophe, c'est la crise de surproduction. Il y a trop de marchandises et pas assez d'acheteurs. Le stock ne s'écoule plus. Il faut donc licencier. Sur fond de crise permanente, Valère Novarina, dans cette pièce hilarante qu'il a écrite en 1974, aborde tous les sujets du monde de l'entreprise. Les conditions de travail, le paternalisme, le surmenage, le stress qui conduit au suicide, l'autoritarisme, l'obsolescence programmée des produits vendus, le syndicalisme collabo, les mouchards, la grève. Les comédiens ont une gamme de jeux éclectiques, ils sont tour à tour musiciens ou chanteurs et nous font beaucoup rire durant les 2h15 que dure la pièce. Le patron, Monsieur Boucaud, est brillamment interprété par Olivier Martin Saban et trouvera toutes les solutions possibles pour museler toute forme de contestation dans sa petite entreprise, aidée en cela par Madame Bouche. Dans cette toute première pièce dont Valère Novarina dit actuellement que pas une syllabe a changé, on retrouve déjà la réflexion engagée tout au long de sa vie de l'auteur sur la parole et le corps de l'acteur. Un bémol toutefois, la deuxième partie du spectacle est plus difficile à suivre, les longs monologues fouillent plus la psychologie des personnages et faire tomber un peu le rythme qui était à flux tendu du tout début du spectacle. Donc il vous reste ce soir et demain pour y aller, c'est à 20h encore ce soir au TNP à Villeurbanne, et encore demain, et vous ne serez pas déçus si vous y allez.
Alors, on est dans un Novarina un peu plus narratif que ce qu'on a eu l'habitude de voir ces dernières années, si j'ai bien compris.
Oui, c'est ça, ouais, parce que comme c'est sa première pièce, je pense qu'il n'avait pas encore cette réflexion de déstructuration
de la parole,
même si ça s'ébauche, on sent qu'il y a une ébauche déjà de réflexion sur le dire, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus narratif.
Ah, génial, et Olivier Martin Salvan, ça ? C'est un super acteur, je l'ai déjà vu dans plusieurs pièces.
De toute façon, tous les acteurs étaient vraiment très très drôles, moi j'ai beaucoup aimé.
Donc au TNP, ce soir et demain.
Encore ce soir et demain, oui. Et c'est mis en scène par Valère Novarina.
Lui-même.
Lui-même, voilà.
Et il n'a pas fait le décor cette fois ?
Non.
D'accord. Ok, donc on vous conseille aussi d'aller voir Boubou's Blues.
Ah oui, Boubou's Blues au Théâtre de l'Élysée, oui.
Voilà, on les a reçus il y a 2 semaines ici, ils nous ont parlé, c'est donc une pièce autour de l'univers de Charles Bukowski. Oui. Donc au Théâtre de l'Élysée, dans le 7e arrondissement, métro Guillotière, rue Bascombalot. En général, le Théâtre de l'Élysée, c'est à 19h30.
C'est ça, c'est à 19h30.
Encore ce soir et demain.
Et c'est encore ce soir et demain, ça fait faire concurrence à Novarina.
En ce moment aussi, on a Mathurin Bolt au Célestin.
Ah oui, moi j'ai vu celui-là, à bas bruit. Et à du coup, j'y ai repensé en entendant parler de la marche, là, dans l'extrait qui vient d'être lu des Schnauss, parce qu'il y a un texte d'un philosophe, dont bien sûr le nom m'échappe, qui est lu sur la marche à un moment. C'est un très beau projet, très politique et très poétique, avec trois interprètes, mais vraiment super, quoi. Et c'est une belle équipe. Et c'est un rapport à l'acrobatie, ça a vraiment évolué, quoi. Ils sont virtuoses, mais c'est bien naturel, c'est très élégant. Ils nous montrent jamais qu'ils sont virtuoses, simplement, des fois, juste comment ils marchent sur scène, soit sur un tapis roulant, soit dans des roues. On comprend pas comment ils font.
D'accord, donc côté de Célestin, la petite salle de la Célestine.
Ouais, c'est 20h30 là-bas, je crois.
20h30, et puis il y a encore du temps pour le
voir. Oui, ils ont commencé il y a 3 jours, je crois que ça joue 2 semaines.
Ok, très bien. Anaïs ?
Et en fait, j'avais complètement zappé, mais il y a mon spectacle.
Ah bah, parlons-en.
Ah ouais, ma compagnie donc joue
Les
Montures du Temps. On joue au Théâtre des Clochards Célestes, juste 2 soirs, donc à pas louper, les 16 et 17 octobre, donc c'est mardi et mercredi prochain, à 20h. C'est un spectacle sur les procès politiques de Louise Michel, Rosa Luxembourg et Angela Davis, brillamment interprété par Sarah Tienobosque, Marie-Audrey Simoneau et Jessica Jargeau. Donc c'est à 20h au Théâtre des Clochards Célestes, je crois que j'ai déjà dit, et ça s'appelle Cerises et Grenades.
Cerises et Grenades, le Théâtre des Clochards Célestes, il est rue des Tables Claudiennes, dans le Pont de la Croix-Rousse.
Exactement.
Et moi, je suis allé voir, vu qu'on est en retard, je suis allé voir, il y a le 10, là, je suis allé voir un spectacle de Gwenaëlle Morin au Théâtre du Point du Jour, qui s'appelait Liberté à Brême. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Donc en fait, Gonel Morin, on l'a invité là, on va bientôt le recevoir pour parler de ça. Il fait un cycle Fassbinder entre les mois de septembre, octobre, novembre et décembre. Donc chaque mois, il ouvre le théâtre du Point du Jour pendant 10 jours. On peut assister tous les soirs à 20h aux répétitions du spectacle, du 1er au 9 de chaque mois. Et le 10, il y a représentation unique. Donc c'est gratuit pour les gens qui étaient adhérents, c'est au théâtre du Point du Jour. Et sinon, je pense que c'est vraiment pas cher. Ils ont aussi une belle politique tarifaire pour les publics dans ce théâtre. Et c'est vraiment... voilà, je vais pas dévouer maintenant, mais le théâtre, comme je l'aime en tout cas personnellement. Donc il y a encore du 1er au 10 novembre et du 1er au 10 décembre. Ne loupez pas le travail de Gonel Morin sur l'écriture de Fassbinder. Merci. Anne de Boissy, Guy Néjon, Stéphane Néjon, Chalky, Anaïs. Merci, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, au revoir.
Au revoir.